Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, félicitons et démolissons de temps à autre les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis Chris et je suis avec le taulier, avec El Patron, je suis avec Yerem. Salut Yerem.
Salut Chris, bah écoute, voilà, on change pas un duo qui gagne, hein. On va passer toute la semaine ensemble, hein. Désolé.
Ouais, on est la tag team de la semaine, faudra vous y faire. Alors on est là pour vous commenter, pour vous reviewer l'Euro du 7 octobre 2019 au lendemain de Hell in a Cell, pay-per-view que vous pouvez aller écouter la review préalable qui a été faite, que vous trouverez sur toutes vos bonnes plateformes. Et ce Raw, il se déroule à Bakersfield en Californie. Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas ce bled. Je ne sais pas toi, Yerem.
Non, j'imagine qu'il y a un Bakersfield dans chaque état des États-Unis, hein, comme Springfield.
ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais. Et bon, du coup, salle de moyenne taille. Je n'ai pas vu s'ils étaient sold out, tiens. C'est un truc que j'aurais dû aller checker avant parce que ça m'aurait intéressé de savoir si ça marchait au niveau public. Parce que ces dernières semaines, Raw a beaucoup de difficultés à remplir les salles. Donc, c'était intéressant. Et du coup, générique et puis d'entrée. Alors, on va en parler vite parce que, ouais. Si tu veux, le segment d'entrée est vraiment incompréhensible puisque ça commence direct, ça enchaîne direct. On est sous le titantron. Il y a Randy Orton et il y a Baron Corbin. Il y a Rusev et il y a déjà le boxon. Voilà, rien n'a commencé que déjà tout a commencé. Et donc, on se retrouve avec un truc un peu étrange, hein, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout ça s'est interrompu, et le titantron s'anime, et qui apparaît en peignoir ? Le Bobby Lashley, voilà, dans un beau peignoir, et qui nous annonce qu'il est chez lui, peinard, il est en show-off, hein. Et il nous annonce qu'il est chez lui et que bah finalement apparemment tout va bien pour lui quoi. Et tout va tellement bien pour lui que qui apparaît si vous avez suivi Raw la semaine dernière apparaît Lana, voilà. Et Lana en petite tenue très décontractée ma foi.
Oui, un Netflix and chill.
Voilà, et donc on se retrouve avec un segment avec une Lana avec une musique de saxophone langoureuse qui apparaît derrière.
Ah,
et
ouais, la zic.
qui se glisse tout simplement dans le lit avec Bobby Lashley face à un Rusev extatique. Et puis je vais pas vous faire un dessin. Hein, il paraît que c'est un show PG, la WWE.
On a eu un fondu au noir après, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Oui.
Elle fait tomber les bretelles du soutien-gorge et voilà. Et on se retrouve avec un Rusev. Dépité dans le ring et avec Corbin et Orton qui se marrent comme des baleines en purée. Donc vous imaginez bien, on est au catch, donc le bulgare, la brute bulgare, ça va pas du tout, il s'énerve, il rentre en rage et évidemment dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On passe sa rage sur les deux mecs le plus proches. Et qui sont les deux mecs le plus proches ? C'est Orton et Corbin. Alors voilà, Raw commence sur un mode coucherie adultère.
Voilà.
Moi, ça m'a laissé, quoi ? Et toi ?
Ouais. Moi, ça m'a laissé quoi aussi. Alors, c'est vrai que l'intro là, c'était chelou. Enfin, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont loupé leur lancement, c'est pas possible. Ce passage à tabac sur Rusev en ouverture de show, c'était assez étrange, mais ça avait le mérite d'être original si ça avait été prévu comme ça. Alors en plus, je crois qu'en fait, que Bobby Lashley, il est chez Rusev à ce moment-là, en fait. Non, il lui dit, ouais, je suis chez toi, j'ai ta maison, j'ai ta chambre, j'ai ta robe de chambre, et puis j'ai ta femme, quoi.
Ouais, je me suis trompé sur la localisation. T'as raison. Ouais, effectivement, c'est pas chez lui, mais il est effectivement chez la famille Rusev.
Voilà, la famille Mashka. Alors Rusev, il me faisait marrer parce que il regardait comme un mec qui assiste en direct à son statut de cocu qui se met en place devant ses yeux. Mais il avait un petit sourire, un petit smile, parce que je sais pas, ça devait le faire marrer toute cette connerie-là, donc c'est assez étrange. Et les deux autres qui rigolaient là, comme des baleines. Par contre, j'ai bien aimé le passage à tabac derrière le gros beatdown de Rusev sur Orton et Corbin, je sais vraiment pas à quoi tout ça va mener. C'est pas si c'est pour, on en parlait pendant la review du pay-per-view, tout ça c'est pour Crown Jewel, hein.
Oui, ça c'est dans l'optique clairement de Crown Jewel et pour insérer une rivalité dans le match par équipe.
Donc en fait, le ridicule de Bobby Lashley, qui est probablement l'un des pires acteurs au monde, qui se retrouve dans une scène de vaudeville, et ce gros passage à tabac d'ailleurs de Rousseff qui montre un petit peu d'émotion, même si c'était ridicule, j'ai eu un peu de sympathie pour tous ces gens qui se sont retrouvés comme dans une ouverture de show un petit peu à l'ancienne, quoi, et pas forcément très excitante, mais ça m'a été étrangement sympathique, moi, cette intro.
Ah ouais, moi j'ai trouvé ça archi bancal, et puis bon, les histoires de coucherie à la WWE, ça mène jamais sur des trucs grandissimes. Après, moi j'étais un peu étonné de Rousseff, justement, de son presque avec un petit sourire en coin, c'était presque surprenant à croire que lui-même ne marchait pas dans le...
Non, mais oui.
Et puis bon, Lashley, voilà, c'est le mec qui a été oublié par le charisme et qui, donc du coup, on essaye de qu'il s'en sorte avec une histoire de tromperie avec Lana. Bon, écoute, moi, je t'avoue que je suis pas client de ce genre de truc. En plus, j'ai trouvé que voilà, cette intro de Raw, c'était bizarre, quoi. C'était un opener étrange. Ça lançait le truc de manière étrange. Et puis, ouais, l'attitude de Corbin et de Orton qui étaient déjà morts de rire la dernière fois et qui se retapent une barre.
Oui, la dernière fois ils étaient morts de rire parce que le trône de Baron Corbin avait explosé.
Donc du coup, ouais, bon, c'était assez surprenant, quoi. Alors, sans transition, après une affaire de coucherie, on passe sur la division féminine. Je ne vois pas là de cause à effet. Et alors là, le bonheur, la joie, la béatitude,
on a total.
Natalia versus Lacey Evans. Et alors là, pour le 757e match entre les deux filles, on nous sort un Last Woman Standing match. Alors, comme je crois qu'on l'a évacué vite fait pendant la review du pay-per-view, mais elles se sont affrontées en pré-show du pay-per-view. Et c'est là qu'a été booké après le Last Woman Standing match du lendemain. Et du coup, bah, on a un match qui se lance. Alors, on aime ou on n'aime pas cette stipulation. Selon les catcheurs, ça peut très bien passer comme ça peut très, très mal passer. Mais là, on parle d'un match entre Natalia et Lacey Evans, quoi. Et alors là, je savais plus quoi penser. Je crois que j'avais le cerveau vide. J'ai été décérébré par ce match. Et le truc que j'ai trouvé plutôt sympa après toute la session qui s'est passée dans le ring, où là, ils nous ont sorti du moveset assez habituel avec les
ouais.
Discus clothesline, etc. C'est une fois qu'elles sont parties voilà, vraiment vers les escaliers, vers le titantron et tout ça, que là, ça a commencé à se balancer dans tous les sens, dans le décor. Là, ça a commencé à prendre un peu plus d'épaisseur. Et je considère toujours que Lacey est vraiment une bonne heel. Et qu'elle a cette capacité avec même une Natalia qu'on connaît par cœur de chez Parker, quoi. Et ben, elle arrive encore à sortir quelques trucs. Mais et du coup, c'est un match qui est relativement long, qui m'a surpris aussi par le temps accordé aux deux femmes. Et finalement, bon, je m'attendais pas tellement à un final comme ça, mais ça se termine avec une souplesse de Nati comme elle sait faire. Et elle enchaîne sur une power tomb, sur une table, mais une table qui est située en bas du stage. L'arbitre compte 10 et Natalia remporte le Last Woman Standing match. Alors,
ouais.
M.
Ouais.
Complètement transporté par ce match.
Bah non, mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'au pay-per-view, on se retrouve avec des matchs dignes de Weekly et en Weekly, là, on se retrouve, bah, je trouve franchement, un match qui n'aurait pas démérité sur une carte de pay-per-view. Peut-être un pay-per-view de seconde catégorie, mais un pay-per-view quand même, toi. C'est vraiment bizarre la façon dont il fonctionne. Déjà, l'opener était chelou. Là, on nous balance à Last Woman Standing, qui, je trouve, a plutôt bien fonctionné, en particulier dans sa seconde moitié, comme tu l'as dit, où quand elles ont commencé à sortir, évidemment, du ring, c'est là où tout se passe. Il y a eu quelques belles séquences, avec des kendo sticks, voilà, et des slams, et la séquence finale sur la rampe, elle était cool, quoi. Natalia se fait éjecter sur le nouveau titantron, là, avec la rampe, avec cet écran incurvé. Voilà, enfin, il y avait... Les filles se sont plutôt données à fond dans l'exercice, j'ai trouvé. Alors que c'était effectivement la cinquième, sixième ou millième fois qu'elles s'affrontaient. Et du coup, j'ai une espèce de frustration me disant, mais Enfin, je sais pas, on est passé presque à côté de quelque chose, là, dans toute cette histoire, parce que clairement, c'est pas une rivalité qui nous donne envie, mais ce match-là était franchement un bon match. Malheureusement, avec la mauvaise gagnante, là, moi, je comprends pas comment tu peux faire perdre ta... Disons-le, enfin, moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup les Sivan, je trouve qu'elle a un potentiel pour être une des top heels de Raw, toi, pour ce que ça veut dire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, la heel à construire pour les mois à venir, elle sortait d'un programme avec la championne.
Ouais, et elle avait, c'est étonnant ça, parce que finalement, elle avait fait un super bon match à Extreme Rules, et elle a été quasiment complètement mise de côté dans une espèce de mid-card là, depuis son retour, et elle ne fait qu'affronter Natalia.
Ouais, c'est la mauvaise mid-card. C'est la mauvaise mid-card avec Natalia en babyface, en fait. Et côté dans la mid-card avec Natalia en babyface, tu ne peux que perdre au final. Parce que tu regardes Ruby Riott, c'était pareil. Elle s'est retrouvée dans une rivalité avec Natalia et au final, elle avait perdu. À chaque fois que tu fous un heal... on va dire, toi, un petit peu de mid-card, toujours pareil, hein, les low-card, mid-card, up-card, main event, card dans la division féminine, c'est pas si riche que ça, mais à chaque fois que tu te retrouves dans Natalia, bah, à la fin, tu perds, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit forcément... c'est encore une occasion manquée de construire une méchante, quoi, tout simplement, un Raw. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le faux pas quoi à la fin d'avoir offert cette victoire à la Canadienne qui n'en a pas besoin, mais bon.
Mais oui, il fallait garder over les Sea Evans. Ouais, c'est bon. Après les victoires, les défaites à la WWE, c'est toujours ouais. Un peu complexe, mais en tout cas, sur ce booking là, ouais, je te rejoins à 100%. Voilà, c'était cette fille, c'est les Sea Evans qui auraient dû gagner ce match là. Enfin bon, voilà, ils en ont fait un autre choix, comme là, très 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 souvent. Voilà. Allez, on enchaîne. Alors on suit, ouais. On se retrouve avec Aleister Black qui est dans la cave, dans le grenier, on ne sait pas où il est, mais comme d'habitude, il est dans le noir. Et pour le coup, on le trouve dans un Monday Night Raw qui vient faire sa prono traditionnelle depuis des semaines à SmackDown. Alors tu me diras après ce que tu en penses, mais peut-être que ça signifierait un draft prochain pour notre ami Black à Raw, et ça serait peut-être pas plus mal vu comment il aura végété à SmackDown. Et bon, bah voilà, il nous fait le truc habituel. Moi, je suis dégoûté hein, pour lui, hein, parce que moi, les catcheurs européens, le traitement des catcheurs européens actuellement, la WWE, c'est une catastrophe, quoi. Le traitement de Black. Il n'y a que Walter, à l'heure actuelle, à la WWE, dans les catcheurs européens, qui a un traitement digne de ce nom. Mais tu prends des.
Ouais, puis il y a Becky Lynch.
Black. Oui, bon, il y a Becky Lynch. Ok. Ok.
T'as l'impression que c'est la moins. Du coup, elle est plus. C'est la moins européenne de tous, quoi.
Ouais, un petit peu ça, quoi. Et bon, du coup, bah, il se retrouve. Voilà, il attend, comme d'habitude, il attend un adversaire, il attend que quelqu'un frappe à sa porte.
Ouais, ok. Alors,
derrière, on enchaîne avec nos consultants de couloir, les Street Profits, qui sont toujours là pour nous rappeler ce qui s'est passé 5 minutes avant et 5 minutes après. Et bien évidemment, ils nous balancent du SmackDown par rapport à la Fox et tout, parce que là, comme il y a le draft qui arrive vendredi, les amis. Là, du coup, il cite quelques mecs, dont Apollo Crews, dont Buddy Murphy. J'étais étonné d'entendre le mot Buddy Murphy. Je fais « Ah, tiens, il se rappelle de lui, quoi ouais. !» Donc voilà, quelques blagues un peu vaseuses sur Drake Maverick. Enfin, vraiment des consultants de couloir Street Profits habituels. J'espère qu'eux vont être draftés aussi pour qu'on les voit dans le ring, dans le main roster, puisque là, je pense qu'à NXT, pour eux, c'est fini. Ils ont perdu le titre la semaine dernière. Leur rematch pour le titre à NXT. J'espère qu'enfin on va les voir sur un peu autre chose. Et puis je pense que le coup du gobelet rouge dans les foules de Raw ou de SmackDown, ça devrait
marcher. Bien sûr.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Donc voilà, on a eu gros segment backstage, Aleister Black, les Street Profits, mon IRM.
Ton avis? Mon avis, c'est bon, on va voir que tout ça. En tout cas, pour Aleister Black, on verra un petit peu plus tard ce qui s'est passé pour lui. Mais moi, qui végète à SmackDown ou à Raw, j'ai l'impression qu'il va végéter un bout de temps. Je suis comme toi, je suis assez dépité. Et puis pour les Street Profits, ils me font marrer, même s'ils arrivent à botcher une liste de trois noms, mais
ouais, c'est vrai.
Drake, Buff et Buddy Murphy, pardon.
We want the smoke.
Ouais, ils abusent un peu de la smoke.
Voilà, je pense que c'est de la smoke. Surtout là, ils étaient en Californie, donc là-bas c'est légal, donc
bien sûr.
Le cannabis thérapeutique.
C'est peut-être pour ça que Bakersfield est peut-être connu pour ça, justement. On demandait Bakersfield.
Il y a peut-être les meilleurs coffee shops de Californie là-bas. Qui sait ? Ah ouais. Allez, on suit. Alors, on suit avec Tyson Fury. On l'avait vu un petit peu vite fait dans le locker room avec sa femme, ses enfants, etc. Là, il est avec Charlie Caruso. Voilà, alors on nous fait le coup des histoires, les excuses, pourquoi il a provoqué Strowman, qui ne l'a pas provoqué, qui a été retenu, qui a été sorti, que c'est un scandale. Donc ce soir, il veut des excuses. Sinon, c'est Strowman qui goûtera à ses mains. Il reprend la catchphrase du monstre, quoi. C'est quand même, ouais. C'est quand même pas mal, quoi. Et après, derrière, on enchaîne sur du catch un peu. Alors là, pour le coup, je vais le dire tout de suite, ça, mais j'ai été content de voir cette affiche-là.
Ah ouais?
Ouais, bah, j'étais content parce que je me suis dit, ah, ça y est, il nous relance un peu la Tag Team Division. Là. Donc, déjà, on a terminé les 3 contre 3. Là,
oui, c'est vrai. Il la relance n'importe comment, mais il la relance.
Ouais, n'importe comment, mais il relance quand même la Tag Team Division. Donc, du coup, on a un match entre les champions, Dolph Ziggler et Robert Root, qui tiennent le titre, et les Viking Raiders, voilà, qui ont fait un match de remplissage à Hell in a Cell. Et là, bah, écoute, je donne mon avis d'entrée, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Surtout à partir du moment où j'ai compris que ça allait quand même déboucher sur quelque chose pour les Viking Raiders si jamais ils gagnaient. Et c'est Vic Joseph qui a commencé un peu à lâcher le morceau dans les commentaires. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a plutôt... Ouais, moi, je trouve que Dolph et Robert Root, c'est des super pros, quoi. C'est des super vétérans. Et que avec eux, franchement, si tu sors pas un bon match, c'est que vraiment, putain, tu mets pas du tien, quoi.
Ouais.
Donc, pour les Viking Raiders, qui pour moi sont deux bons workers et deux mecs qui sont capables de sortir du lourd, qui sont bons en double team et qui sont quand même impressionnants physiquement, quoi, tu vois, et qui me semblent plus agiles que des Heavy Machinery, par exemple, moi j'ai trouvé que ça sortait un bon match.
Non, t'as raison,
je finis juste avant de te donner la parole. Ouais. Pour le coup, c'est Eric Aivar donc, qui conclut avec le Viking Experience et il gagne clean et ils vont avoir un title shot.
Et ben voilà.
Non, il est content le IRM que les Viking Raiders ils aient un title shot.
Non, je suis pas content, mais je suis pas mécontent non plus. Non, effectivement, on va relancer la division tag team, on va voir. En fait, le souci que j'ai, alors le match, je te rejoins, le match était vraiment très bon. Ça plaisir, effectivement, t'as raison. Tu mets Ziggler, tu mets Rude. Rude, il est loin de ses grandes heures à NXT, mais c'est propre. C'est pro, donc du coup, les Viking Raiders ont pu briller plus que quand ils se tapent des squash match depuis des semaines. Donc là, on a enfin un petit peu de compète. Donc ça, c'était quand même appréciable, mais le match était vraiment solide. Maintenant, on va voir un title shot pour les Viking Raiders. Imaginons qu'ils chopent le titre. Tu dis, j'ai l'impression que c'est encore une équipe de NXT qui chope le titre un peu dans l'indifférent général. Parce qu'on peut pas dire que les Viking Raiders, la hype Viking Raiders soit au taquet.
Ah, ça, je suis d'accord avec toi.
Et du coup, j'ai un peu peur que ça fasse comme AOP, comme The Revival lors de leur premier titre, où grosso modo, les mecs, ils arrivent, on leur donne le titre et puis après, ça retombe dans l'oubli. Donc, j'ai un petit voilà, j'y vais avec tranquillement, on va voir ce qui va se passer, mais il va falloir prouver tout ça une semaine après l'autre, quoi, toutes les semaines. Je veux voir ce genre de match toutes les semaines dans la vision Tag Team Raw pour enfin y croire, quoi, que effectivement on reprend cette division au sérieux. Et qu'on nous montre un petit peu qui sont ces mecs, quoi. Qui sont ces mecs, les Viking Raiders qui ont changé 3 fois de nom. Qui sont-ils? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils mangent le midi?
Cet homme est prudent. C'est un homme prudent.
Voilà.
Après, pour avoir fait beaucoup de reviews de Raw avec Raphaël.
Ouais.
Nous, à Roux, on se félicitait quand même pas mal dans la Team Raw là, que la Tag Team Division était vachement plus intéressante à Raw qu'à SmackDown. Et qu'il y avait, tu vois, il y avait plus de compètes, il y avait plus d'équipes, et que du coup, il se passait plus de choses. Donc, si tu veux, je te rejoins sur cette prudence, mais en même temps, qui pète tout là. Mais surtout, tu vois, pour des équipes comme ça, il faut qu'ils nous sortent des matchs à stipulation, merde. Dolph Ziggler, il est jamais aussi bon que quand il est dans un ladder match, par exemple.
Bah ouais.
Tu vois, les Viking Raiders, ils seraient très bons dans un TLC, tu vois, et dans un TLC match. C'est des mecs à qui il faut balancer de la stipu, il faut arrêter de leur faire faire du catch traditionnel. Là, il faut qu'ils envoient du pâté, quoi. Si tu veux, c'est ça, c'est que moi, je suis presque dans un truc, dans un trip que c'est quasiment pas assez hardcore, quoi.
C'est des mecs qui sont faits pour passer à travers les tables, pour s'en mettre plein la tronche, pour avoir des spots où ils frôlent la mort à chaque instant. Ouais, carrément, carrément.
Sur les double teams des Viking Raiders, là, avec des tables, avec des chaises, avec des échelles, ça serait énorme. Et voilà, easy. Comme Root d'ailleurs aussi, hein. Ils savent gérer ce genre de combat et du coup on pourra avoir des beaux combats spectaculaires. Donc écoute, je verrai si on verra, mais le prochain pay-per-view c'est Crown Jewel. On verra si la Tag Team Division de Raw sera dans l'affaire et que le match sera en jeu à ce moment-là. Et on verra s'ils balanceront une stipulation pour les tag teams.
Donc c'est la semaine prochaine, hein, le match pour le championnat du coup.
Alors oui, apparemment le match pour le championnat c'est la semaine prochaine, mais bon, j'ai du mal à ne pas imaginer au moins un titre tag team mis en jeu à Crown Jewel quand même.
Ouais, c'est possible, ça dépend. C'est le patron local qui décide, hein. C'est le fils du roi. C'est le jeune prince qui décide de la carte.
Ouais, même s'il les met dans le pré-show, je pense que ça ira bien, quoi. Parce qu'avec toute la bouse qu'on risque de manger ça risque d'être dur. Bon, ouais. Allez, on sort de la tag team. On retrouve Aleister Black. Qui est en tenue de combat et qui est prêt, qui dit qu'il va sur le ring de toute façon et puis qu'il va choper le premier mec qui vient. Donc il va
enfin quoi, enfin.
Enfin, ouais. Le même coup qu'à SmackDown en réalité.
Ouais.
Et putain, et qui c'est qui est dans le ring? Qui c'est qui est dans le ring? Mais peuple de catch-up, mais envoyez-nous des Lexomil parce que là, moi, je me suis transformé en Captain Lexomil là. Parce que c'est Singh Brothers qui sont dans le ring, quoi. Mazette, mais comment c'était possible ça? J'étais prêt à imaginer n'importe qui, hein. EC3, Drake Maverick, Air Truth, Carmella. Mais non, on a les Singh Brothers, quoi. Donc on se retrouve avec un pauvre handicap match, où Aleister Black va se contenter de passer des Black Mass, quoi, et puis va démolir les deux Indiens de poche. Et voilà, c'est terminé.
Ouais. À tout le RM. Bah. Bon. j'ai trouvé ça pas mal moi. Aleister Black, le personnage, déjà c'est complètement naze. Le mec, ouais, bah si tu cherches la bagarre, arrête de réclamer ce que les gens viennent chez toi. C'est à toi de se sortir les doigts et aller chercher la baston. Bon, il va chercher la baston auprès des deux nains de jardin de Jinder Mahal. Alors c'était peut-être pas forcément les plus intéressants. Mais j'ai pas mal aimé le squash, tous les black mass, le fait qu'il reste stoïque, presque méthodique.
Il gagne par soumission.
Il a innové
puisqu'il place une soumission pour finir.
C'est ça. Mais je me dis, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que lui, il vient les... Ça, c'est qui vient les chercher? C'est les Singh Brothers qui veulent chercher la bagarre auprès d'Aleister Black? Ou c'est
Ouais, c'est les Singh Brothers qui sont dans le ring, les premiers.
Ouais, c'est ça. Mais c'est bizarrement construit quand même. Aleister Black, tu peux pas dire « Ouais, je suis un ouf taré qui veut juste de la grosse baston, une bagarre, toi, comme il est avec Cesaro, et puis derrière, te taper ces mecs-là, quoi. » Ça, par contre, ouais. Ça peut pas durer très très longtemps. Là, ça fait la blague, mais la semaine prochaine, il faut autre chose, quoi. Il faudra autre chose.
Ouais. Moi, je t'avoue que moi, je suis totalement dépité pour Aleister Black. C'est vraiment, ce gars-là, je le suivais quand il était en Europe, et voilà, tout son parcours à NXT et tout ça. Et franchement, c'est vraiment dur de voir le Hollandais traité de cette manière-là. Moi, pour moi, c'est vraiment une tristesse, quoi.
T'es sûr que c'est lui que t'as bien suivi jusqu'au bout? Peut-être qu'il t'a semé le vrai et puis qu'en fait, là, t'as
suivi. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, le Tommy End de l'époque, c'était quelque chose. Et voilà, donc c'est pour moi vraiment une grosse question de le voir dans ce genre de personnage-là, Arrow. Voilà. Donc le rôle continue après ce truc-là qui m'a un peu, qui m'a fait prendre mon premier Lexomil. Peut-être même mon deuxième. Et du coup, derrière, on enchaîne avec tout un tas de segments vidéo. On nous remet un récapitulatif de SmackDown sur la Fox. On nous remet une couche sur Tyson Fury et puis avec Strowman qui est donc lui aussi qui passe au micro et qui dit que bah ok, il prend ça au sérieux le Monster Among Men et que donc il va faire goûter les mains à Fury. Enfin, tout le monde a envie de faire goûter ses mains à tout le monde. C'est pas très propre, hein, quand même, comme truc. J'espère qu'ils mettent, du gel, hein, parce que là, franchement, tout le monde veut faire goûter les mains à tout le monde.
Ah ouais, là, paye tes bactéries là.
Ouais. Là, bientôt il va falloir catcher avec aussi un masque sur le visage, quoi, parce que c'est pas possible, quoi.
Ah, ça, c'est la lucha underground, du conf. c'est fini, Chris, la lucha, c'est fini.
Ah ouais, je sais, j'ai du mal à m'y faire. Hein. J'ai vraiment, ça, c'est un truc qui me manque, ça. Hein. Ça fait.
Ça, tu veux mettre des masques sur tout le monde là.
Bah, ouais, je sais bien, ouais. Et après, derrière, bah écoute, encore une fois, on a une espèce de revue de presse sur le dernier SmackDown. Ça n'arrête pas. On a un truc sur le Bleacher Report. On nous parle des développements de la rivalité de Lesnar, de Rey Mysterio. J'étais vachement surpris. Hein. Cain Velasquez. Charlie, elle se retrouve à interviewer Rey Mysterio.
Ouais.
Qui remercie le public de son soutien dans l'épreuve qu'il a subie avec son fils et tout. Voilà, il est fier de son fils, voilà, qui est comme un homme à l'hôpital.
À l'hôpital. Comme vrai.
Voilà. Et donc voir Brock fracasser son fils, évidemment, ça lui a pas plu, quoi. Et bah du coup, il a fait appel un peu aux liens familiaux. Et puis il a un parrain quand même vachement sympa, Dominique. Il a Cain Velasquez, deux fois champion du monde poids lourd UFC. Et il s'est dit, bah tiens, bah moi je vais ramener la famille. Voilà, Ré, il est comme ça, il ramène la famille, les amis. Et donc il dit, pour clôturer tranquillement, tout simplement que Velasquez va détruire Brock. Derrière, on a encore un segment avec les aussi qui nous font un tout suite. Ça va relativement vite, ça c'est vrai, pas trop mal. Ils partent vers le ring, on se dit que ah, on va avoir du catch. Bah non, on repart vers un package vidéo avec les EOP qui nous font leur promo traditionnelle en albanais. Donc rappelez-vous les amis, violence en albanais, ça se dit lufte. Et enfin, on part sur du catch. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de tout ce truc? Ça a duré, je crois, 17 minutes. Et ça, c'est quand même assez incroyable.
Bah ouais, c'est un bon rythme. Hein. Genre, on a bien réparti les séquences au Monday Night Raw, quoi.
Alors, tu te rappelais d'un truc aussi long comme ça, de présentation dans Raw? Moi, ça m'a vachement surpris, quoi.
Ouais, non, c'est très rare, mais je me souviens, il y a quelques semaines, ils avaient fait un truc du même genre, où ils avaient enchaîné les séquences backstage. Non, c'était... Je crois que c'était un épisode de SmackDown qui était connu pour ça, où il y avait quasiment presque une heure avant qu'il y ait du catch. Et dans cette heure-là, t'avais genre une grosse demi-heure avec Shane McMahon.
Oui, je me souviens. T'as tout à fait raison, ouais, c'est clair.
La promo, ça parlait, les promos et les packages vidéo. Et puis, t'avais du package vidéo dans le package vidéo. Enfin, toi, c'était à l'Inception. Tu savais plus ce que t'es en train de regarder. Tu savais plus si c'était en direct, si c'était la semaine dernière, si c'était il y a 3 semaines, ou si c'était les prévisions pour la semaine prochaine. T'es complètement paumé. Donc là, on était proche de ça, quoi. Donc, globalement, ouais, non, c'était un petit peu. Tout ça, enfin, il y avait à boire et à manger, l'histoire est créée, c'est pas mal, dans le sens où, voilà, on explique un petit peu, toi, ça c'est pas mal, d'expliquer pourquoi le mec il est arrivé, là, Cain Velasquez, ouais, ça, voilà, ça fait partie de la famille et tout. Ça c'est plutôt cool, toi, le reste, c'était clairement oubliable.
Ouais, c'était. Moi, c'était même pas la question que ça m'ait plu ou pas, quoi. C'était surtout, j'étais étonné par l'enchaînement et la longueur de tous ces segments vidéo, quoi.
Ouais.
Et voilà, et les pauvres EOP, je leur souhaite la même chose qu'aux Street Profits, qu'on les revoit très très vite sur le ring. Et puis Ré, je l'aime d'amour, donc de toute façon, je vais pas critiquer un segment avec Ré. Donc voilà. Alors, on arrive quand même sur un peu du catch, un petit peu. Voilà. Et là, on allait aussi. Donc on a un 3 contre 3. Moi, j'ai dit au début qu'ils allaient un peu arrêter avec ça. Bah non. Donc du coup, on a un 3 contre 3 avec les aussi au complet. Anderson, Gallows et Jay Styles. Et ils affrontent Lucha. On nous a ressorti la Lucha House Party. C'est ouf, non?
Bah écoute, voilà, visiblement, il y a la place pour tout le monde à Monday Night Raw. Et tu veux du masque en plus, ben voilà du masque.
Moi j'aime les masques, alors là, je me plains pas de ça. Et puis moi je trouve qu'en particulier Grand Metallic et Kalisto sont hyper intéressants dans le ring et font vraiment de la lucha libre classique, et du coup moi j'aime bien, quoi. Et même si le combat a été assez court au final, je m'attendais justement à un truc un petit peu plus long. Je me suis dit
bon, non.
Et puis non, ouais, effectivement c'est resté très court. Et puis les heels gagnent, voilà.
Bah ouais, non, c'était bon, c'était marrant, c'était costaud, c'était marrant en plus. Enfin voilà, avec la lucha c'est parti, il y a quelques séquences sympas. Non, ça a plutôt bien fonctionné. Le petit compte là, de la Salida del Sol, un peu les kicks, c'était plutôt cool sur la fin. Du coup, moi, j'ai, voilà, Ça, voilà. Un match de 10 minutes, pure weekly, où il y a du fun et les méchants sont méchants et en plus ils gagnent, donc t'as envie qu'ils perdent la fois suivante. Donc simple et efficace. Donc après, essayer de taper effectivement 15 minutes de backstage et de vidéo package, ça faisait du bien.
Ouais. Ouais.
Le petit beatdown derrière en plus. Donc,
Ouais, c'est vrai qu'ils avaient. Oui, j'avais même petite. Le Styles Clash qui a été porté quand même, mine de rien.
Pour faire bonne mesure.
Oui, voilà, ouais, pour faire bien, quand même, on n'oublie pas de placer.
J'ai l'impression qu'il aime moins, pas trop les masques, AJ Styles, moins que toi, par exemple.
Ah ouais, il est peut-être moins fan, ouais. Peut-être. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Allez, on enchaîne avec... Ouais. Parce qu'il y a, en fait, il y avait du programme, hein, mine de rien, dans ce rôle.
Il y avait à bouffer. Hein.
Et derrière, avec le Miss TV. Donc le Miss TV, alors je t'avoue que moi j'étais tellement perdu avec la white card rule que sur le coup j'ai eu un moment à me dire merde, il est pas à SmackDown, et puis ah bah non, c'est vrai, il est à Raw. et bah le Miss TV, c'est quand même, il nous plug un petit peu tout ce qui va se passer avec Tyson Fury et Braun Strowman, et puis bah son invité c'est quand même The Man, c'est Becky Lynch, et qui arrive avec voilà, la grosse pop habituelle qui pète des fumigènes. Voilà, Becky, franchement, elle reste, elle est à Bakersfield, pourtant elle est dans un bled américain, mais voilà, il n'y a pas de problème. Becky, elle continue à envoyer du lourd sur chaque pop, dans quelques salles qu'elle soit. Et derrière,
voilà, une européenne qui a réussi, tu vois.
Ouais, c'est vrai, ouais. Il a fallu aller la chercher chez les filles. Et puis, bah, du coup, c'est rejoint par la Queen, par Charlotte. Voilà, avec la foule qui fait wouh, bref, que du classique. Pour le Miz, c'est du gâteau, hein, ce genre de segment, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est pas... C'était du classique, peut-être du trop classique. J'en ai parlé, notre analyse sur Hell in a Cell. Je trouve ça très dommage que Bailey et Sasha Banks voilà, soient repartis par la petite porte là, et qu'on se retrouve une fois de plus avec ce Becky Lynch et cette Charlotte. Bon, on va voir que visiblement on va leur donner un programme à ces deux-là, mais ça m'a pas enchanté, quoi. J'ai pas trouvé en grande forme en plus.
En plus qu'elles ont raconté, t'es pas très très intéressant à en faire le rappel de voilà, que moi
leurs
moi,
exploits, ouais.
Ouais, voilà. Mais moi maintenant j'ai ma tête sur une boîte de céréales, et moi je fais
ouais.
Et moi je fais cela, je fais WWE 2K20, tu vois.
Ouais.
Nous ont tout balancé, hein, ESPN Magazine, Muscle and Fitness, tu vois. Enfin, elles ont fait une méga promo commerciale. Hop là, mine de rien, vite enfilé. Le Miz, il a quand même un peu rappelé le truc en rappelant qu'à la draft, il pouvait se passer ceci, cela. Bon, ouais. Voilà, on a eu les histoires des deux ceintures. Et puis finalement, le Miz qui book, qui book un match avec. Avec les Kabuki Warriors derrière. Donc bon, c'était. Moi, j'ai trouvé ça hyper commercial, en fait, si tu veux.
Ouais, bah, c'était carrément du gros placement de produits, de l'auto-congratulation, comme on dit. Voilà, on se félicite mutuellement de nos exploits. On montre en avant le fait que, voilà, nos catcheurs, nos stars sont partout, comme tu l'as dit, sur vos boîtes de jeux vidéo, sur vos céréales et bientôt sur vos rouleaux de PQ, peut-être, on va savoir. Ouais, c'était pas super. J'ai pas trouvé qu'il est... Il y a eu 2-3 catchphrases qui étaient pas trop mal, toi, quand Becky Lynch dit qu'elle a fait la ceinture, elle a rendu la ceinture SmackDown célèbre, et Charlotte dit bah moi je t'ai rendu célèbre. C'était pas mal, toi, t'avais deux jolies catchphrases, mais tout ça noyé ouais, dans une opération marketing.
Ouais, clairement, ouais. Je suis totalement raccord avec ça. Donc du coup, le match est booké quand même. Donc on a droit à un match entre les Kabuki Warriors et Charlotte et Becky. Alors ce qui est marrant, les Japonaises arrivent sous le citantron surexcitées dans une promo en japonais totalement hallucinante que tu vas te faire une joie quand même de nous traduire, Irem, parce que moi j'ai besoin de tes connaissances en japonais sur ce coup-là.
Alors, grosso modo, hein, ouais. Ils ont dit on va vous péter vos gueules. On va vous péter vos gueules. Attention, nous voilà, et puis elles sont arrivées, puis elles leur ont pété la gueule.
Merci, putain, peuple de ketchup, voilà.
En japonais.
Vous avez quand même de la traduction en japonais à quoi. Il y a que chez nous que vous trouverez ça, d'accord.
Tous ces épisodes de Naruto en VO sous-titré payent enfin.
Voilà, bah tu vois, il fallait ça pour en arriver là. Et du coup, bah, on se retrouve avec un match quand même pas dégueu, moi je trouve, avec un beau line-up.
Ouais.
Et surtout que les pris le titre, ont pris le titre dimanche à Elinocel. Donc du coup, on a quand même un Champions versus Champions, pas dégueu quoi, pas dégueu du tout. Et Asuka va nous ressortir le mist. Hein. J'ai pas rêvé.
Ah bah non. Becky Lynch, j'en ai pris plein la tronche.
Sur Becky quoi, excusez du peu quoi. Sur Becky quoi. Après un match assez long, plutôt pas mal, avec une Kairi Sane qui a changé un peu son look, qui s'est mis des bracelets noirs, un espèce de haut noir, voilà, qui essaye de se faire passer la plus méchante possible, ce qui est pas forcément évident. Et mine de rien, c'est les Kabuki Warriors clean qui gagnent le match, avec Kairi Sane qui fait tomber. Et derrière, on a le droit à une attaque des ex-championnes, Alexa et Nikki, qui arrivent comme des balles sur le ring, quoi.
Ah ouais.
Enchaîner un neckbreaker, un DDT, et pas contente, Bliss et Cross, pas contente. Donc, là, on a un match de catch, et avec les anciennes championnes pas contentes qui reviennent. Et donc voilà, t'en as pensé quoi de ce passage féminin, là ?
Eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Non mais c'est voilà, là il y a du star power, on laisse le temps à des filles à qui on donnait plus trop de temps vraiment de s'exprimer, voilà, de sortir le grand jeu. Enfin, Asuka, ça fait tellement plaisir de la voir remettre des gros coups de kick là dans la tronche, elle est en mode vénère. J'ai beaucoup aimé cette promo que je vous ai parfaitement traduit. Avant le show, je trouvais qu'il y avait une espèce de folie quoi qui arrivait là, genre qui était prête à inonder le ring, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'était cool. En plus, comme tu le dis, derrière, on n'oublie pas les anciennes championnes qui viennent faire à la rescousse pour, voilà, parce qu'on va utiliser un petit rematch, peut-être en weekly, peut-être en pay-per-view, peu importe. Mais en même temps, on construit aussi un petit peu les rivalités de demain. Donc c'est, voilà, c'est intelligent, il y a de l'action. Il y a de l'humour, il y a de la folie. Voilà, c'est la recette qui a bien fonctionné, quoi. Donc c'est du tout bon, quoi. On valide.
Ouais. Moi aussi, vraiment fan de tout ce match et de l'intégralité du booking là. J'avais rien à redire. Je suis sorti heureux de ce match. Après, derrière, on enchaîne un petit peu. Je le glisse à chaque fois parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Raphaël, mais on a une promo sur les œuvres de charité faites par la WWE et en particulier par Roman Reigns. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir ton avis là-dessus, parce que du coup, moi j'ai donné mon avis, Raphaël a donné son avis, mais c'est l'occasion dans cette review de Monday Night Raw que tu me... Comment tu vois, toi, cette... Comment dire, ce que présente la WWE, et bon, c'est pas le fait que ce soit Roman Reigns spécifiquement, tu vois quoi, mais comment tu l'interprètes, toi, comme ces glissements vers les charités de la WWE ?
Vous pouvez répéter la question, comment ça fait ?
En clair, est-ce que tu trouves que la WWE, elle en fait trop avec ça ? Ou qu'elle s'en sert pour vendre ses catcheurs ? Ou que non, c'est impec, ça passe, et c'est ce qu'il faut ?
Ouais, c'est... est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de ça ? Je suis pas sûr, toi. Hein. Donc, non, ça m'a pas plus choqué que ça.
Ah non, c'est pas une question d'être choqué, en fait, si tu veux. Moi, c'est parce que moi, je suis pas choqué particulièrement. Mais avec Raphaël, on avait eu cette réflexion sur le fait que, tu vois, un Roman Reigns, il n'était pas perçu de la même manière. Depuis sa rémission et après tout ce qu'il avait fait dans les hôpitaux, etc., que ça avait changé la perception du public, par exemple, par rapport à lui.
Ouais.
Tu vois, le public américain, on sait comment ils sont hyper attachés à ce genre de trucs et tout ça. Et moi et Raphaël, je pense tous les deux, on pensait tous les deux que, si tu veux, que par exemple, ça avait modifié la perception d'un Roman Reigns, par exemple, dans le roster.
Ah bah oui, oui, bah oui, ça c'est difficile de contredire ça, effectivement. De toute façon, ils l'ont utilisé, ils l'ont intégré complètement à la storyline du personnage. Donc, effectivement, ça... voilà, peut-être que ça lui... peut-être que ça le traîne un petit peu aussi. C'est une façon de rester connecté avec le public. Ouais, c'est très américain. Ça fonctionne bien avec eux, mais... Bon, de toute façon... ils le font. Et ouais, si, effectivement, ça influence évidemment la façon dont les gens le perçoivent. Ce qu'il faut, c'est que lui, il devienne plus que ça. Il ne faut pas qu'il soit qu'il se résume à son combat face à son cancer, sa rémission, et qu'il devienne juste le visage de toi, des mecs qui combattent le cancer, et puis qu'il soit juste plus que ça, quoi. C'est ça il faut qu'il aille au-delà de ça. Et c'est vrai que ces derniers, enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore.
Ok, bah, c'est cool d'avoir un autre avis comme ça. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un peu comment la perception des différentes choses, même hors catch, qu'il peut y avoir dans une émission comme ça. Je trouve ça intéressant.
Ouais, bah carrément.
On revient au catch. Et alors là, on a un match Apollo Crews versus Ricky la belle vie. Mais alors là, ça a été expéditif, mais vraiment expéditif. Je sais même pas quoi en penser de ce match, tellement ça a été rapide. Et je pense qu'entre les deux, il peut y avoir une bonne alchimie. Je pense en fait tout simplement que ce match-là, il fallait lui donner au moins 5 minutes de plus. Voilà. Et du coup, Ricochet met une espèce de code breaker à la fin. Il a pas porté son 630 en finisher. Et sans surprise, à mon avis, hein, à mon humble avis, bah Ricky a gagné. Voilà.
Ouais, Ricky la belle vie, toi, depuis qu'il a fait tomber son masque. Il est encore plus fort, hein. Ricochet.
Ah, ça se discute parce qu'à la Lucha Underground, il a été le top champion quand même pendant de un long règne.
Ouais, bah il était top champion NXT aussi, non, Ricochet.
Non, non, il a pas, non. Il a été North American champion.
North American. Ouais, mais tellement de ceinture. Mais ouais. Est-ce qu'un championnat de North American de NXT ne vaut pas un championnat du monde de la Lucha Underground? Je te pose la question.
Ah ouais, ça se discute, ouais, ça c'est clair. Il peut y avoir débat.
Non, mais écoute, ouais, c'est agréable, mais c'est un peu vain, non, tout ça. Je sais pas, c'est sympa, mais tu veux mettre 5 minutes de plus, mais tu veux des roues de 5 heures, mon pauvre Chris, après.
Ouais, ah bah non, parce qu'il y a plein de segments que je couperais aussi.
Ah d'accord, oui, effectivement. Ah, effectivement, là, si. Oui, bah genre les 15 minutes de backstage qu'on a eu, par exemple.
Ouais, voilà, ouais, tu vois, par exemple, ça c'est carrément dispensable. Enfin bon, allez, bah, mine de rien, on arrive au main event et on est arrivé. Alors, on va quand même en dire un mot parce que ça peut paraître incroyable, mais après ce qui s'est passé à Hell in a Cell dans le main event.
C'est ça, c'est-à-dire que nous, on va en dire un mot parce que la WWE a visiblement eu un petit peu de mal à en dire un mot ou deux, quoi.
Apparemment, ça a été très très compliqué, je pense, là, parce que effectivement, on a juste droit à un package vidéo où on revoit voilà, les choses principales qui se sont déroulées pendant le combat de la veille, l'arrêt de l'arbitre, le mandible claw. Et basta, ça s'arrête là-dessus. Le truc dure 40 secondes. Incroyable, hein. Et on n'aura même pas eu, tout au long du Raw, on n'aura même pas eu un moment ou un autre, soit un petit package vidéo juste avec Rollins qui parle, ou le retour du Firefly Funhouse. Non, rien, zéro, nada, pot de balle. Voilà.
Niette, voilà que dalle.
Comment a été évacué le main event de la veille, du pay-per-view de la veille. Là, franchement...
Là, ils savent pas quoi, ce qu'ils vont faire en fait. Ils savent pas là.
Ils sont perdus là.
Ils sont paumés. Les mecs, ils sont paumés. Ils sont là. Je sais effectivement là, tu dis, mais les mecs ne savent pas comment gérer ça. C'est là, j'imagine la panic room là. Les mecs sont en mode dans un coin là, à se balancer d'avant en arrière et à dire, mais comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir?
Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ah non, là, ils n'ont pas su ce qu'ils avaient fait, là.
Ah non, c'est incroyable, hein. Moi, j'en revenais pas, hein. C'était ouais. Incroyable. Et, alors, ça a été basculé à une vitesse et évacué par les commentateurs aussi.
Ah ouais, non, mais personne ne va parler, c'est le sujet tabou à l'heure actuelle à la WWE.
Ah ouais, je crois qu'ils préfèrent entendre Jerry Lawler raconter n'importe quoi plutôt que parler du main event de la veille.
Ah ouais, non, ils n'assument pas.
C'est incroyable, c'est énorme, c'est énorme.
Et c'est ça qui me fait... Enfin, je trouve ça terrible, en fait, parce que, tu sais, enfin... on en a parlé dans l'analyse, moi, j'ai quand même donné mon top à ce match-là, finalement, parce que c'était une expérience assez unique en son genre, avec ses défauts, et ses gros défauts, son gros défaut. Là, moi, je me dis, mais... Enfin, mais les gars, assumez, quoi. Assumez. vous avez pris comme une sacrée décision qui était probablement aux yeux de beaucoup de gens était une décision de merde, mais au moins assumer et twister ça pour que pour qu'on, parce que là en fait bah les mecs se dédient eux-mêmes, enfin s'ils assument pas qu'ils vont le faire à leur place, enfin au final personne n'assume. C'est la meilleure des manières pour saccager complètement le travail qu'ils ont fait pendant des mois. Donc là, il va falloir se relever rapidement parce qu'on ne peut pas rester sans Seth Rollins et sans The Fiend. C'est la grosse histoire du moment, normalement. Toi. C'est censé être le gros truc, quoi.
Il paraît qu'il y a juste aussi le titre majeur d'Euro qui est dans la balance.
Oui, paraît-il. Tout ça sur des rumeurs, on entend des mecs hurler la nuit dans les bois.
C'est un complot.
Ah ouais, non mais je pense qu'effectivement, si tu mets les gros complotistes là-dessus, sur cet épisode d'Euro, ils vont te sortir des dossiers, les mecs, quoi. C'est pas possible.
Donc voilà, donc du coup, ça se termine là-dessus. Et on bascule vers le main event. Ça y est, on est au main event, qui n'est pas un main event traditionnel, puisque c'est pas un match. C'est donc la séance de qui va goûter les points de qui entre Tyson Fury et Braun Strowman. Alors, c'est Jerry Lawler qui est dans le ring, grand bonheur, avec tout un tas, une flopée d'agents de sécurité, qui nous présente l'ancien champion du monde poids lourd, invaincu, voilà, la totale, le Gypsy Kings, bref, voilà, la totale. La foule est plutôt pas mal réactive, quoi, globalement. Quoi. Fury il gère bien le truc, d'ailleurs, quoi. Je l'ai trouvé plutôt bon au micro.
La foule est en furie.
La foule est en furie, voilà, exactement. Il a bien trouvé, quoi. Et il semble bien déter, donc c'est impeccable. Le Braun Strowman, évidemment, bah, il arrive. Écoute, je sais pas, je voulais couper ça en deux fois, mais j'ai envie de dire que ça, c'est la première partie, l'arrivée de Strowman, etc. La confrontation commence, et la deuxième partie, ça se transforme en un brawl.
Ouais.
Et alors, je vais tout de suite te donner la parole parce que moi, ce brawl, j'ai eu l'impression qu'il avait été absolument pas préparé et que c'était n'importe nawak.
Ouais. Moi, de toute façon, j'ai pas trop kiffé hein, cette séquence. Nick Fury, il est sympa, mais il m'est sympathique en plus. Je sais pas, il a une bonne tête, ce gars. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait finalement pas vraiment d'intensité dans tout ça. C'était un petit peu mou du genou, même le brawl, j'ai trouvé un peu mou du genou. C'était beaucoup dans la mise en scène. On a essayé de reproduire un peu les grosses mises en scène de ce type d'affrontement, quoi, où on fait venir des mecs du showbiz pour séduire le grand public et faire pleuvoir les dollars, là, commencer à faire tourner la machine à billets. Je sais pas,
ça matchait pas, ils étaient pas, tu vois, il y avait pas d'intensité, ils étaient non. Pas. On avait l'impression que Fury il avait peur de faire mal à n'importe quel mec. Ils ont défoncé toute la sécurité et après c'est toute la low card et mid card qui est venue au secours, mais qui a pas réussi. Pour l'instant la foule elle était à fond avec let's them fight, mais c'était mou, les coups qui se donnaient, ça ressemblait à rien. Moi j'ai pensé à la dernière grosse bagarre comme ça avec sécurité et trucs, j'avais pensé à l'Undertaker Lesnar. Qui avait été un méga baston de folie qui s'était terminé derrière la Gorilla Position, etc., dans le parking et tout. Mais là, on avait l'impression qu'ils avaient le frein à main, que tout le monde avait le frein à main.
À frein à main et puis à marche arrière derrière toi. Donc effectivement, les mecs, ils avançaient, reculaient en même temps. Ouais, non, les coups qui pleuvaient, c'était les vieux coups tout mous. Alors que les mecs ont passé tout l'épisode pendant 15 minutes backstage. À se dire, tu vois ce point-là, je vais te le mettre dans la tronche, mec, mais ta tête, je vais la décrocher. Et puis, t'arrives à la fin de l'épisode où les gars sont censés se mettre sur la tête et en fait, ils sont là à se mettre des coups tout mous, genre à se lancer des éponges au visage. Non, c'était naze.
Ouais, je suis assez d'accord.
Ah, franchement, je dis, attends, c'est les mecs qui font 2m30, c'est des morceaux de barbac. Enfin, je sais pas, mettez-vous des grosses pêches, quoi.
Ouais. Et puis, c'est complètement. Il retourne au vestiaire, etc. Enfin, Strowman retourne vers le vestiaire et Caruso. Il est interviewé par Caruso, là. Et du coup, il repart, il y retourne, quoi. Il y a Fury qui le nargue dans le ring
Ouais, et puis toutes ces histoires d'excuses, là, c'est naze, ça. C'est le gars qui vient chercher des excuses, il me dit, c'est pas ça, il vient pas chercher des excuses, il veut chercher la baston, puis voilà.
Puis le show s'arrête là-dessus, quoi. Sur la dernière bagarre,
Oui, sur Strowman qui dit, ouais, non, je veux pas m'excuser. Et puis il retourne sur le. Il y retourne et puis ça se termine, quoi.
Voilà. Donc vraiment, d'accord. Écoute, qu'est-ce que ça va donner entre les cordes s'il y a réellement un match entre ces deux-là? Je suis très curieux de voir ça. J'espère que Tyson Fury a bossé
Ouais, là.
le wrestling.
Ouais, là, clairement, ils en sont au début, quoi, de la formation de Fury, qui a visiblement pas voulu faire de trop de dégâts à sa première, son pr première brawl, ce qui est tout à son honneur, hein. Le mec a visiblement a voulu être, enfin voilà, pas faire de gaffe. Mais du coup, ça se voit tout de suite dans ce genre de séquence, si les mecs retiennent leur coup, si les mecs se mettent pas sur la tronche, voilà, si t'as l'impression que c'est les gars de la sécurité qui ont plus la rage, qui ont plus la hargne et qui sont plus costauds, c'est pas normal, toi.
Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, cet épisode du 7 octobre Bakersfield, California, se termine là-dessus. Et nous, traditionnel top flop et notes. Donc, Yarem, c'est toi qui ouvre le bal. Alors, vas-y, balance.
Ouais, écoute, je dois t'avouer qu'à part le. Alors écoute, mon flop, ça va être. Est-ce que c'est vraiment un flop ça? Ouais, je le donne. C'est quoi? Je vais le donner à ce main event là. Je vais le donner à ce main event là qui était vraiment mou du genou. Tu peux pas avoir des mecs de 2,20 m là qui se font des caresses. Pendant 10 minutes, quoi, et terminer là-dessus. Et mon top, bah écoute, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Mon top, je vais le donner. Je vais le donner au Last Woman Standing Match. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce qu'elles ont fait, les filles, là. C'était plutôt pas mal. Et elles ont beaucoup de mérite d'avoir sorti un aussi bon match, parce que c'était quand même un bon match, j'ai trouvé, alors que c'est complètement balancé n'importe où, n'importe comment. Donc, je leur tire mon chapeau, comme les Sea Evans. Et ma note, eh ben, j'hésite entre 2,25 et 2,75, parce que j'ai envie de prendre parti. Je vais donner 2,25. Je vais donner 2,25 à ce weekly qui était globalement. Bien solide entre les cordes sur pas mal de matchs, mais avec peu d'ambition et finalement un main event qui était assez mou du genou. Donc, ça sera un 2,25 pour moi, s'il vous plaît.
Ok. Eh ben écoute, moi mon flop, ça va être l'opener. Voilà, l'intro Rousseff, Lashley, Lana, tout ça, quoi.
Ah ouais.
Ah ouais, non, mais moi je le dis clairement, vraiment, autant j'aime beaucoup Rousseff, mais ça passe pas auprès de moi, quoi. C'est vraiment, là, pour moi, c'est. J'aurais pu mettre aussi Aleister Black, Singh Brothers, mais je vais vraiment le donner à l'opener, parce qu'en plus, j'ai pas aimé comment le show a commencé avec. Corbin et Orton qui étaient déjà sur en bas du Titantron. J'ai trouvé que c'était fait n'importe comment, cette entrée-là de Raw, quoi. Et vraiment le truc, Lashley, Lana, Rousseff, vraiment, mais j'en ai rien à carrer, mais rien à carrer, quoi. Le truc qui ne va pas m'intéresser dans les prochaines semaines, ça c'est clair. Ce qui m'intéressera, par contre, ça sera de voir Rousseff dépecer la Bobby Lashley. Ça, pourquoi pas. Mais sorti de ça, il y a vraiment ça ne m'intéresse pas et donc je lui donne mon flop sans problème. Mon top, bah, je vais le donner aux femmes aussi. Bah, décidément, ça sera un double top féminin, mais je vais pas le donner à Lacey Evans, Natalia. Je vais le donner au tag team match entre les Kabuki Warriors et
Ouais.
Lynch et Charlotte. Voilà, j'ai trouvé que c'était le match de la soirée avec une construction cohérente, avec une
C'est
intervention
vrai.
bienvenue de Nikki Cross et Alexa Bliss. Et ça a été vraiment le moment vraiment où je me suis le plus éclaté au niveau catch, quoi, parce que le reste, voilà, j'ai pas grand-chose à en ressortir. Et enfin, globalement, c'est un roux, je me suis un peu emmerdé, où il y a eu des segments qui, pour moi, des matchs qui ont été trop courts, un main event sans aucune saveur, un brawl que j'ai trouvé foiré.
En fait, ils voulaient pas faire de vague. Hein. Ils voulaient pas faire de vague après le pay-per-view et la cata.
Et en plus, si tu veux, ça me posait un problème aussi du fait que, bah, que le Fiend est tué comme ça. Je considère que le Raw du lendemain d'après pay-per-view, c'est toujours un Raw où normalement il se passe un truc un peu plus, tu vois, punchy que d'habitude.
C'est et vrai là, que ça aurait pu être ça notre flop quand même.
On nous a carrément évacué le Fiend et Seth Rollins. Et moi, ça, je trouve ça assez scandaleux et une forme d'aveu d'impuissance un peu de la part aussi de la WWE là-dessus, quoi. Et je trouve ça quand même pour une boîte pareille. Là, Stamford, là, franchement, bah non, pas d'accord avec ce traitement-là, là, du titre universel. Voilà, on a voulu évacuer parce que vendredi, il y a SmackDown, Fox et que c'est le début du draft. Et ils se sont dit, bon, bah allez, on va leur glisser tranquillou un épisode de transition. Et puis personne ne verra rien. Et puis personne ne dira rien. Mais il y a les phares. Il y a le peuple de catch-up. Il y a les chroniqueurs de catch-up qui sont là et qui ont repéré pour vous cette infamie.
On voit tout. On voit tout, et même ce qu'il n'y a pas à voir.
Deux. Simplement deux.
Ouh, ouais, bah dis donc, Chris. Ouais, pour une fois, que tu donnes moins que moi.
C'est toi qui me fais remonter la note parce que j'étais lancé sur un 1,5.
Ah, mais vas-y, si tu veux mettre un ennemi, mets ton ennemi.
Je laisse le 2 parce que le match vraiment tag team féminin m'a plu.
D'accord.
Et que voilà. Donc ça sera
aïe, un. Aïe, aïe. À la sentence.
Voilà. Ça prend cher, hein. Ça prend cher. Hein. Depuis 2-3 semaines, quand même, les notes sont faiblardes hein, sur à peu près tous les shows de la WWE. Sauf si vous m'avez écouté la semaine dernière, j'ai mis un 4 quand même au NXT de la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir.
Ah ouais. Très bel épisode.
Tu l'as vu l'épisode?
Bien sûr, oui. Ouais.
Ah ouais, un excellent
un petit bijou.
Show mercredi dernier, ouais, allez voir ça. Bon, ben voilà. Eh ben, allez voir ça et puis allez nous trouver alors. On est dans la phase finale. Donc, on est dans la phase de la fameuse, la réputée, celle que IRM a mis en exergue depuis des années maintenant, la fameuse auto-promo de catch-up. Le truc que vous attendez tous. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur les cahiers du catch. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous liker, nous unliker, ou activer la cloche aussi si vous voulez avoir des infos rapides. Vous nous retrouvez après sur toutes les plateformes habituelles de podcast que vous fréquentez assidûment, j'imagine. Alors, est-ce que je vais les avoir en tête est-ce que ma mémoire d'EpadMan ne va pas me lâcher? Non, Podcast Apple, Podcast, Spotify, Deezer, Google.com, nous sommes partout, nous sommes catch-up, les amis.
Tu sais quoi, si côté paumé, Chris, je te donne une petite astuce, tu dis tous les liens sont dans la description.
Ah oui, pas mal, tous les liens sont dans la description. Merci MC IRM. Bon, alors... merci à toi MC.
Bah, de rien MC.
Bon, ok. Bon, on vous souhaite une bonne semaine de catch. Il y a encore SmackDown à venir cette semaine.
Ouais, et la draft, ça, c'est très excitant.
Le draft qui va être dispatché entre le SmackDown de vendredi et l'Euro de lundi prochain. Ouais. Donc, il y a de l'actu à venir. Alors, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch et puis on vous fait des bisous. Ciao IRM, ciao peuple de catch-up.
Ciao, salut.
Yowie, wowie. Yowie, wowie.